SBS Radio, a part of your community, broadcasting in French.
Radio SBS diffuse en français 5 fois par semaine.
Le français à SBS. Et rejoignez-nous sur SBS.
Lily au micro. Radio SBS.
Vous pouvez écouter les émissions en français sur Radio SBS partout en Australie.
Les émissions en français sont diffusées sur Radio SBS les mardis, jeudis et vendredis à 11h, les samedis à 21h et les dimanches à 16h.
Nous allons commencer avec la musique, et pour ceux d'entre vous qui, ceux et celles d'entre vous qui aimaient la musique du film, eh bien, si vous vous rappelez Jeanne Moreau, qui nous a chanté « J'ai la mémoire qui flanche », c'est un nouveau CD, un CD qui a pour titre discographe 613-482, le titre « Traveling French Actors Across Borders ».
Qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait, chaque jour en se rasant.
Eh bien, j'ai le très grand plaisir d'accueillir dans nos studios, après cette chanson par Jeanne Moreau, J'ai la mémoire qui flanche, quelqu'un au contraire dont la mémoire est particulièrement aiguë. Il s'agit d'un savant. Nous sommes dans une phase scientifique en ce moment, après Dr. William Rosten, qui était notre invité à 4 reprises la semaine dernière, parce qu'il présentait non seulement son roman, mais aussi le travail qu'il effectue sur Parkinson's disease. Eh bien, le Dr. Vincent Guipon, qui est de l'École des mines, qui est directeur de recherche à l'École des mines de Paris, est en Australie pour un projet qu'il va nous expliquer. Nous avons discuté un petit peu ensemble. On est dans la science, on est dans la recherche. Alors d'abord, bonjour Dr. Vincent Guipon.
Bonjour Daniel.
Vous êtes en Australie et vous avez été invité par le CSIRO, qui est véritablement un institut vénérable et vénéré en Australie.
Oui, il semblerait que le CSIRO soit un des instruments de la recherche australienne qui soit les plus avancés, et j'étais très heureux là de pouvoir être accueilli pendant 5 jours par cet organisme pour essayer, j'espère dans un futur proche, de pouvoir collaborer sur des technologies nouvelles et très très intéressantes et source de réflexion et d'interrogation très poussée.
Vincent Guipon, il y a énormément de collaboration en ce moment entre l'Australie et la France, beaucoup de synergies, il y a des partenariats, il y a des inspirations aussi.
Oui, des inspirations qui sont liées au fait que l'Australie est un pays qui est en pointe, et l'Europe, la France, essaye de regarder vers les pays qui essayent de promouvoir, qui repoussent les frontières, et aussi pour lesquels les solutions technologiques qui doivent accompagner les études et les recherches vont déboucher vers des solutions nouvelles qui vont avoir des retombées, nous le pensons, assez rapides pour pouvoir améliorer des procédés.
Là, on parle de synergie entre les industries, entre les applications finalement et la recherche pure. On parle aussi, et là nous allons parler du temps, parce que la recherche, le temps de la recherche est un temps différent, ce que nous a expliqué d'ailleurs le docteur William Rostein et aussi le docteur Daniel Hoserman du synchrotron, et nous allons revenir au synchrotron. Le temps de la recherche est un temps différent.
Oui, alors bon, il y aurait beaucoup à dire là sur cette notion de temps du côté du chercheur dans son laboratoire qui est soumis chaque jour au pragmatisme de ses expériences. L'on peut dire que le temps s'accélère, il y a une volonté d'être de plus en plus réactif et d'aller de plus en plus vite au résultat.
Trop vite peut-être ?
Peut-être trop vite, peut-être trop sous la pression. Et je crois qu'une des difficultés, ou plutôt une façon dont le métier évolue, alors bien sûr Internet n'est pas innocent aussi dans ses façons d'échanger de l'information, d'aller très très vite dans des nouvelles réflexions. Le chercheur, lui, doit, je pense, hein, et puis c'était aussi des sujets que j'ai abordés avec mes collègues australiens, doit s'octroyer un petit peu le temps à la réflexion pour essayer de rendre mature certaines choses qui parfois ne le sont pas. Et je crois que...
Et sans te lancer trop vite.
Trop vite, ou disons qu'il faut essayer de mener conjointement la réflexion en même temps que le développement. Et je crois que là-dessus, il y a une compétition qui est très très intense, qu'elle soit en Europe.
Et néfaste.
Néfaste, je ne sais pas. Je pense que ce qui est néfaste, c'est de ne pas pouvoir aboutir, d'avoir le temps justement de faire mûrir certaines choses. Donc là, le chercheur des fois se retrouve un petit peu, on va dire, seul à pouvoir mener cette réflexion. Mais j'ai senti ici en Australie une certaine communauté d'esprit là par rapport à la vision que l'on peut avoir du métier de recherche. C'est un petit peu différent dans les pays asiatiques que je connais un petit peu par ailleurs. Et donc je crois qu'il y a vraiment un intérêt pour nous, et j'espère pour les chercheurs australiens là, que j'ai rencontrés, d'échanger, parce que finalement c'est un petit peu ça le but de ma visite, de mon déplacement.
Alors, Vincent Guipon, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre formation, votre parcours ?
J'ai un parcours assez classique d'un chercheur qui s'est formé à l'université. J'ai été tout d'abord jeune étudiant à l'université de Dijon, qui est une très bonne université pour la formation des jeunes en sciences, ce qu'on appelle les sciences dures, hein, donc à l'époque chimie et physique des matériaux. Et puis j'ai eu la chance ensuite de pouvoir faire une thèse à l'École Centrale de Lyon, qui est également une institution très renommée dans le domaine des matériaux en France. Et puis c'est avec un certain honneur là que j'ai été accueilli à l'École des Mines de Paris dans un centre de recherche qui s'appelle le Centre des Matériaux, qui est localisé à 30 km au sud de Paris. Donc pour moi ça a été un peu le choc des civilisations venant de ma province et arrivant à Paris, parce que il faut bien noter que Paris est une ville particulière. D'ailleurs j'étais assez surpris ici que l'on me parle d'embouteillage alors que j'ai l'impression que la circulation est d'une fluidité sans pareil. Je crois que tout est relatif. Tout est relatif. Mais cela dit, mon parcours est un parcours, disons, académique. Moi, j'ai à chaque fois, et je crois que ça c'est quelque chose qui peut-être un peu caractérise mon parcours, peut-être par rapport à d'autres parcours scientifiques, c'est que j'ai essayé à chaque fois dans mon développement de lier la partie académique, enfin de recherche disons plus fondamentale, avec la possibilité d'avoir un regard sur ce qui se passe dans l'industrie, c'est-à-dire comment sont utilisées nos recherches et quelles sont les applications que l'on peut en tirer. Et en ce sens, l'École des Mines à Paris est tout à fait dans cette lignée. Je pense que ce n'est pas un hasard là si j'ai pu m'épanouir dans cette institution, car nous avons en permanence ce souhait et de pouvoir à la fois offrir aux jeunes là qui viennent nous retrouver une formation de qualité, mais également que cette formation soit de plein pied avec les métiers qui font les métiers de la technologie, de la science, dans l'industrie.
Ce qui existe ailleurs dans les pays neufs et ce qui existe certainement en Allemagne.
Voilà, donc il y a une certaine communauté, une approche un peu similaire, avec quand même certains distinguos, mais qui sont du domaine du détail. Je pense notamment à la façon de financer les recherches. Mais effectivement, vous avez raison, Daniel, nous avons une certaine communauté d'esprit avec la recherche, disons, des pays anglo-saxons et puis également des pays comme l'Allemagne.
Ça commence à changer aussi en France, je crois. Non,
ça change. Et
l'École des Mines en serait probablement l'exemple le plus concret.
Je crois que l'École des Mines est à la pointe de ces changements, avec notamment une ouverture à l'international. Donc finalement, si je suis là, c'est aussi un petit peu de cette démarche, cette volonté vraiment de confronter nos travaux, nos chercheurs et d'aller au contact d'autres laboratoires pour s'ouvrir vers l'international. Donc il y a vraiment une volonté de l'École des Mines à travers ses laboratoires, mais également à travers son cursus d'ingénieur, d'accueillir des jeunes venant de pays étrangers. Alors je pense que l'Australie, je pense que s'il y a des jeunes Australiens là, qui écoutent cette émission, ils peuvent, je crois, sans difficulté, essayer de voir dans quelle mesure de leur cursus universitaire australien, ils peuvent agrémenter une partie en venant faire quelques temps de...
Quelques stages, voire des
cursus qui sont des cursus mixtes entre les deux pays.
Nous avons une organisation qui s'appelle l'AFAS et qui est une association justement de savants et de techniciens, d'ingénieurs qui ont travaillé dans les deux pays. Et ils restent en contact. John Acton en est le président et en général, ces gens-là sont très très actifs. Et j'imagine que vous connaissez John Acton.
Oui, j'ai eu le plaisir de rencontrer John Acton hier. Donc nous avons eu une entrevue très très sympathique et finalement j'ai découvert cette association qui me paraît dynamique et surtout c'est ça qui m'a marqué, qui montre finalement l'intérêt et le lien que peuvent conserver les gens une fois qu'ils ont découvert soit la France lorsqu'on est australien, soit l'Australie lorsqu'on est français. Et je crois qu'il y a une certaine fascination et que lorsque cette fascination elle est mise en pratique, je crois que ça reste quelque chose de marqué. Et si je dois faire un commentaire, peut-être que dans ce cas-là, il y a peut-être une différence avec d'autres pays où finalement un chercheur, un peu comme un saltimbanque ou comme quelqu'un qui prendrait son bâton de pèlerin, pourrait aller d'un pays à un autre sans forcément s'attacher à ce pays. J'ai des exemples en tête de chercheurs qui passent régulièrement des périodes dans des pays aux quatre coins de la planète, si je peux dire. Mais est-ce qu'il y a réellement un attachement? Alors que j'ai l'impression, peut-être par la distance, on ne pratique pas des allers-retours très facilement entre la France et l'Australie, fait que finalement les gens, lorsqu'ils viennent, on s'installe peut-être, sont là de façon plus durable et arrivent à créer une certaine communauté. Et d'ailleurs, je me suis senti, moi, qui ai découvert l'Australie là pendant cette semaine, vraiment très très à l'aise, sans aucun décalage par rapport à l'idée que je pourrais me faire de la vie en Australie.
Vincent Guipon, votre recherche est basée sur un produit, parce que là on parlait justement des convergences entre la recherche pure, le temps de la recherche bien sûr, mais aussi l'obligation de résultat, et puis finalement le résultat concret que la recherche va créer, va produire ou vers lequel elle va mener ses différentes activités de recherche. On a parlé là d'un procédé, l'École des mines semble être à la pointe de ce procédé, mais l'Australie se place aussi très très bien. Un procédé qui a été créé par les Soviétiques, qui a transité par les États-Unis, qui s'est installé en France et qui intéresse énormément les Australiens. Alors pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît ?
Volontiers. Donc effectivement, dans le cadre de mes travaux, donc moi je suis un chercheur qui travaille dans le domaine des traitements de surface, donc est un domaine très très vaste, un petit peu renié parce que finalement les traitements de surface viennent alors que les pièces que l'on a dans l'industrie ou ailleurs ont déjà servi, elles sont usées, il faut les réparer. Et finalement, on est là un petit peu comme des docteurs qui viendraient essayer de donner une deuxième vie à des matériaux. Et ce faisant, à travers cette démarche, on est aussi capable de fabriquer des matériaux qui ont des propriétés très très particulières, et ce en utilisant des procédés qui aussi peuvent être très très particuliers. Le domaine dans lequel nous essayons d'avoir des échanges avec le
CSIRO,
avec lequel j'essaye de voir, parce que nous avons une communauté de travaux, le procédé est un procédé dit de projection thermique, mais avec une certaine particularité pour celui qui nous concerne, que l'on appelle la projection à froid, ou en anglais cold spray, qui est très très particulier en ce sens où l'on vient à partir d'un matériau essentiellement un métal, on vient réaliser un revêtement qui peut être très épais, qui va par ce procédé conserver toute sa pureté pendant le procédé. Alors dit comme ça, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt pour les non-initiés, mais pour les chercheurs en matériaux, le fait de pouvoir conserver un matériau et sa pureté pendant sa transformation est très très intéressant, parce qu'ensuite
est rare,
et par ailleurs ce procédé cold spray, qui est vraiment une nouvelle technologie, permet également d'avoir des matériaux qui sont, on va dire, très résistants et qui offrent des particularités encore inexplorées. Alors ce que je dois mentionner également, c'est que si les applications, si les méthodes de réalisation de ce revêtement sont existantes, parce que des machines industrielles existent, commerciales, en revanche, du côté scientifique et compréhension, tout reste à faire. Donc c'est un exemple où finalement la technologie devance la science, mais pour que la technologie puisse continuer et perdurer, il y a à un moment donné, et c'est là qu'on sent l'appel vers les laboratoires, il y a l'intérêt et la nécessité de comprendre. Donc en l'occurrence, si je devais résumer, nous sommes capables actuellement de réaliser des revêtements qui sont de très bonne qualité, mais nous ne savons pas pourquoi les matériaux que nous faisons ont une bonne cohérence, une bonne adhérence.
Ils sont littéralement inoxydables.
Ils résistent très bien à la corrosion pour certains matériaux, ou alors des très bonnes propriétés de conductivité thermique, électrique ou autre, parce que les matériaux restent purs pendant leur élaboration. Ce qu'il faut noter, et ça c'est important, alors que nous sommes confrontés à des matériaux qui ont des dimensions qui sont, on va dire, millimétriques, on se rend compte que les propriétés de ceux-ci, en revanche, sont sur des échelles qui sont très très petites. Alors il y a une volonté actuellement beaucoup de parler de nanotechnologie, d'échelle nanométrique. Alors sans vouloir faire l'apologie de l'esprit nano, je crois que sans le faire volontairement, nous sommes confrontés à travers ces recherches à étudier la matière à des échelles très très fines, parce que ce sont ces échelles qui, lorsqu'elles interagissent, confèrent à des matériaux leurs propriétés finales. Et donc nous avons besoin d'utiliser des outils très très performant, très très puissant, qui mesure les propriétés des matériaux à des échelles nanométriques, que ce soit à travers des microscopes, donc essentiellement ce que l'on appelle les microscopes électroniques à transmission. Il y a d'autres techniques, nano-indentation par exemple, et puis des techniques pour lesquelles j'ai été très heureux d'apprendre que, côté de l'université de Merboul, allait se construire un synchrotron, donc la possibilité d'étudier des matériaux grâce à un rayonnement synchrotron.
Il est déjà là, et c'est à côté de Monash.
À côté de Monash, oui, voilà. Donc je l'ai encore
pas là. C'est à côté de Monash, voilà, oui, d'ailleurs, c'est ce que je vous disais. Et paraît-il, il est déjà très, très bien développé, mais il est encore en voie de développement. Et
voilà.
Et il y a, de la part des gens qui travaillent pour le synchrotron, une volonté justement de le faire connaître aux politiques qui sont les décideurs et qui délient la bourse et qui doivent être convaincus. Parce que la recherche est terriblement importante, comme vous le disiez vous-même. On pourrait revenir sur la pureté de ces matériaux. Vous avez dit quelque chose de très très intéressant sur ce traitement de surface par voie sèche, que la pureté des matériaux fait en sorte que l'environnement lui-même est beaucoup moins altéré, beaucoup moins abîmé que dans les procédés ordinaires qui sont les bains liquides. Quel est le procédé que nous essayons de concevoir là maintenant pour nos auditeurs? C'est un revêtement, et c'est un revêtement qui doit être extrêmement solide. C'est un revêtement qui ne doit pas s'oxyder, qui ne doit pas se corroder. Donc vous dites, on ne sait pas pourquoi, mais dans ce cas-là, il s'agit justement de la création de ce revêtement. On ne comprend pas exactement pourquoi cela donne les résultats que cela donne, mais le résultat est extrêmement important pour certaines industries de pointe comme l'aéronautique et puis la grosse industrie.
Tout à fait. Bon, alors, quand je dis on ne comprend pas pourquoi, c'est une façon un petit peu simpliste d'expliquer finalement l'intérêt qu'il y a pour un chercheur à essayer de comprendre réellement les mécanismes qui interviennent dans la formation d'un matériau. Bon, pour ce qui est de la pureté de ces matériaux, c'est indéniable que cette technologie est une avancée importante, et de façon un petit peu conjointe, donc le fait d'avoir ces possibilités fait que certains traitements qui sont utilisés actuellement dans l'industrie, que l'on appelle donc des traitements par voie humide, deviennent, disons, moins...
Sont très nocifs, finalement.
Voilà. En France, bon, les politiques, bon, notamment avec l'Agence de l'énergie, l'ADEME, qui essayent de pousser les chercheurs à étudier des procédés qui sont avec un impact environnemental le plus faible possible. Donc, le procédé de Cosprey rentre tout à fait dans cette lignée.
C'est
parce
une industrie propre, à ce moment-là.
Voilà. C'est-à-dire qu'on met tout ce qui est effluent, tout ce qui est résidu, tout ce qui est... tout est diminué. Et l'Australie, en fait, a eu le premier, la possibilité de rentrer à une échelle industrielle, parce qu'effectivement, lorsqu'on passe du laboratoire pour aller à une échelle industrielle, il peut y avoir des difficultés, mais là, les difficultés ont été levées, donc il y a une démonstration très très importante et avec des enjeux économiques très importants à la clé, parce que pour certaines industries, ces traitements sont très très coûteux. Donc le CSIRO a montré que on pouvait remplacer un revêtement existant, d'ailleurs très compliqué, par un revêtement plus simple pour la réalisation de revêtements utilisés dans l'imprimerie.
Et avec un résultat...
Un résultat tout à fait satisfaisant qui est...
Satisfaisant ou meilleur?
Je pense meilleur sur beaucoup d'aspects. Alors, bien sûr, j'ai eu de très bons échanges avec mes collègues du CSIRO, mais lorsque l'on touche à certaines données un petit peu commerciales ou liées à des secrets industriels, certaines choses...
Mais il faut faire très attention aussi, parce que...
Tout n'est pas divulgué ou divulgable, donc c'est la propriété intellectuelle dans ces domaines, et notamment lorsqu'on a affaire à des procédés qui sont, on va dire, émergents. Donc,
les savants, les scientifiques commencent à apprendre à se défendre aussi.
Effectivement, on est obligé. Alors c'est une façon un petit peu duale de se comporter, où il faut à la fois s'ouvrir à l'extérieur, échanger, mais dans cet échange, ne pas, de façon un peu imagée, vendre son âme au diable et laisser filer des résultats qui pourraient avoir des retombées. Malgré tout, je pense que ce faisant, et je le découvre ici en Australie, les problèmes industriels qui sont posés, je pense à l'industrie minière par exemple d'extraction, qui à mon avis est un des secteurs qui bouge le plus là en Australie, créer de la demande sur certains types de revêtements. On peut imaginer aisément que toutes les machines-outils qui sont utilisées pour extraire des minéraux ou même des outillages qui visent à avoir des bains chimiques pour pouvoir traiter les minéraux, on n'a pas du tout cette problématique en France, donc on peut très bien arriver à avoir des travaux en commun et sans avoir de rivalité. Et là, c'est un petit peu le but.
Donc c'est l'avantage.
C'est l'avantage.
Je vais essayer de garder Dr Vincent Guipon un petit peu plus longtemps après l'émission. Nous arrivons à la fin de notre émission et j'aimerais continuer cette conversation et sur cet échange scientifique entre l'Australie et la France et l'Europe finalement, parce que la France fait intégralement partie de l'Europe et il y a des partenariats au niveau européen aussi.